Le journal Bruno Duvic.
Soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, acceptez-vous de comparaître ? Je crois pas que j'ai le choix, mais oui, les propos de Jean-Luc Mélenchon ce matin au tribunal de Bobigny. Son procès s'est ouvert un an après les bousculades de policiers et d'un magistrat au siège de la France Insoumise. Six prévenus, les militants font du parvis du tribunal un lieu de meeting. Les premiers secrets de l'expo événement de la rentrée Léonard de Vinci au Louvre. Information France Inter, on pourra entrer dans la maison de la Joconde. Et elle nous montrera le bas. Mais oui, Jacqueline Pétros nous raconte. Cambriolage et agression dans l'un des plus beaux châteaux de France, Vaux-le-Vicomte, propriétaire ligoté, 2 millions d'euros de butin. Les règles de versement des pensions alimentaires vont changer, plus d'automatisme pour mettre fin à des scandales comme celui-ci. Elle s'appelle Mireille.
Vous devez vous débrouiller toute seule. J'ai peiné pendant toute l'adolescence de mes enfants. Le papa a des ressources à l'étranger et il ne les déclare pas. J'ai toujours rien récupéré. Donc finalement, j'ai rien.
Les détails sur les nouvelles règles avec Mathilde Dehimi tout à l'heure. Le panier de soins de l'aide médicale d'État ne changera pas. Information France Inter, Yael Goz. L'arbitrage vient d'être rendu. La sécheresse est de plus en plus préoccupante sur les bords de Loire, ici entre Nantes et Angers.
C'est un peu triste parce que je me dis que c'est un fleuve quand même. Normalement, il devrait y avoir un petit peu d'eau. Et là, on se retrouve avec limite une rivière en fait, sur quand même un bon nombre de kilomètres.
Reportage de Pascal Boucherie tout à l'heure dans cette édition encore. La cigarette électronique peut-elle être dangereuse? Le doute monte. Mise au point avec notre spécialiste santé Daniel Messager. La réponse est non. Le Monde et le combat des journalistes pour leur indépendance vis-à-vis des actionnaires. De plus en plus de tensions et de confusions. Justin Trudeau, campagne cauchemardesque au Canada. Et puis Zidane, tensé par la presse espagnole après la défaite 3-0 face au PSG hier soir. 13h30, la Terre au carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
On parlera des chasseurs?
Oui, je reçois le naturaliste Pierre Rigaud qui publie un livre à charge contre la chasse. Non, écrit-il, les chasseurs ne sont pas écologistes et non, ils ne protègent pas la nature. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez dialoguer avec Pierre Rigaud en direct.
Il va y avoir du monde au standard. 01 45 24 7000. Vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Écharpe bleu, blanc, rouge en bandoulière, Jean-Luc Mélenchon s'est présenté ce matin au tribunal de Bobigny au milieu de ses partisans. Son procès et celui de cinq de ses proches a commencé près d'un an après la perquisition très mouvementée au siège de la France Insoumise. Un procureur, des policiers bousculés, des phrases devenues célèbres, la République c'est moi, la personne des parlementaires est sacrée. Les six prévenus sont jugés pour actes d'intimidation contre l'autorité judiciaire, rébellion, provocation. Ils encourent théoriquement jusqu'à 10 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité. Procès politique, estime-t-on, à la France insoumise. L'hypothèse d'un report était évoquée en début de matinée, finalement non. Le débat juridique, dans un instant, avec Ariane Grissel, en direct de Bobigny. Ça, c'est le côté court. Mais dans ce procès théâtral, Laurence Perron, c'est aussi à suivre devant le tribunal où sont rassemblés les partisans de Mélenchon.
Côté jardin, c'est une ambiance de festival. Café à volonté, petits gâteaux et t-shirts floqués de « Ma personne est sacrée » ne manquent plus que les toilettes sèches. On ironise et on se fait tenser par cette militante qui s'est levée à 4h du matin pour être là.
Moi, j'étais folle de rage. En fait, je suis sortie de chez moi. Je suis allée au local pour voir un peu ce qui se passait. J'ai eu le sentiment, moi, d'être traitée comme une terroriste. Les mails que j'ai envoyés, les mails que j'ai reçus, nos débats, tout a été volé. J'ai eu le sentiment, moi, d'être traitée comme une criminelle.
Des députés de la France Insoumise, ceints dans leur écharpe tricolore, ni François Ruffin, ni Clémentine Autain. Caroline Fiat, en revanche.
Ils ont essayé de nous enterrer, mais ils ne savaient pas que qu'on était des graines. Donc toutes les graines sont là aujourd'hui. Donc ça va faire du monde à incarcérer à un moment donné pour nous faire taire.
Ça chante, ça débat. On rate du coup l'arrivée de l'ancien ministre de l'Intérieur de Mitterrand, Pierre Joxe, venu soutenir son ex-camarade Mélenchon, tout comme l'ancienne ministre socialiste Marie-Noëlle Lienemann, qui se souvient qu'en 1979 aussi, Laurent Fabius s'était opposé à une perquisition au siège du PS.
Et puis il y a même eu d'autres moments, je me rappelle à François Mitterrand venant témoigner pour la perquisition de la Ligue communiste révolutionnaire avec Alain Krivine.
Les politiques quittent peu à peu les lieux et sur le parvis de Bobigny, les militants vont désormais entrer en mode pique-nique.
Voilà pour le reportage de Laurence Perron devant le tribunal. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
Alors ça c'était le côté jardin, côté cour. Ariane, vous avez suivi les débats ce matin, ambiance beaucoup plus calme et technique.
Et oui, la matinée a été consacrée au visionnage de ces images de perquisition en intégralité, une heure en tout. Quelques éclats de rire dans la salle au moment les plus marquants, notamment celui où certains élus essayent d'enfoncer une porte. Mais pour le reste, c'était une sorte de temps calme, une parenthèse dans un rendez-vous judiciaire qui a démarré fort tout de même. L'expression procès politique a surgi quelques minutes après le début de l'audience dans la bouche de l'avocat de Jean-Luc Mélenchon. Le ministère public a demandé un renvoi au motif que tout le monde n'avait pas eu accès à l'intégralité des pièces du dossier, notamment 4 prévenus sur 6, demande acceptée par les avocats des parties civiles, mais rejetée justement côté prévenu. Un de leurs avocats dit soupçonner un renvoi en pleine campagne pour les municipales. Finalement, l'audience se tient donc bien aujourd'hui et demain, avec ce matin effectivement dans la salle Pierre Joxe, ancien ministre de l'Intérieur, venu soutenir non pas les policiers, partie civile, mais donc son ami de longue date, Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France Insoumise, lui, fait profil bas pour le moment dans la salle d'audience, le nez dans son téléphone portable pendant la projection des images. À la question du président, acceptez-vous de comparaître? Il répond, je ne crois pas que j'ai le choix. Ça a été pour le moment sa seule provocation. L'audience est suspendue. Le temps du déjeuner, elle reprend à 14h.
Merci Ariane Grissel avec Nicolas Mathias pour France Inter en direct de Bobigny. Aux accusations de procès politique lancées par la France Insoumise, le gouvernement, par la voix de la ministre de la Justice, répond invective, fantasme et théorie du complot. Un nouveau front social est en train de s'ouvrir pour le gouvernement. EDF, près d'un tiers des agents étaient en grève ce matin, 20 000 personnes. Ils protestent contre la réorganisation d'Électricité de France, séparation en deux, une partie privatisée. Écoutez Marc Poteau, il est représentant CGT à EDF pour la Franche-Comté et l'Alsace. Pour lui, l'État se prépare à vendre les bijoux de la couronne au détriment des Français. Il crie au hold-up.
L'entreprise sera séparée en deux parties. D'un côté, ce qui rapporte de l'argent, et d'un autre côté, ce qui n'en rapporte pas beaucoup, voire pas du tout, avec l'objectif de ce qui rapporte de l'argent, de le vendre. Tout ce qui coûte de l'argent, on va le nationaliser. Voilà, donc c'est toute la question du nucléaire, de nos centrales qu'il faut remettre aux normes. Donc forcément, ça va coûter un petit peu d'argent, donc ça, on nationalise. Et d'un autre côté, tout ce qui rapporte beaucoup d'argent, Enedis par exemple, ça se sera vendu. On est dans la logique de Macron et de son gouvernement ultralibéral qui continue à vendre le patrimoine français. On est dans la même logique que la Française des Jeux ou à Aéroport de Paris. Voilà, il faut continuer à vendre pour que certaines entreprises privées et des multinationales continuent à gagner un peu plus d'argent.
Voilà pour ce témoignage et cette greffe à EDF, rassemblement en début d'après-midi devant le ministère de la Transition écologique. Ça, c'est pour la manifestation parisienne. Il y en a également en province. Combien d'offres sérieuses pour Aigle Azur? Les deux principaux candidats à la reprise viennent de se retirer. Air France et Air Caraïbes, effrayés par les pertes abyssales d'Aigle Azur. Parmi les offres sérieuses reste celle de Lionel Guérin, ancien patron de HOP, filiale régionale d'Air France, à condition que le gouvernement prête 15 millions d'euros. Qu'en dira le tribunal de commerce? Réponse à la fin de la semaine prochaine.
France Inter, le journal de 13h, Bruno Duvic.
Peut-être avez-vous déjà réservé, pour les amateurs de peinture, c'est le grand rendez-vous de l'automne. L'exposition Léonard de Vinci au Louvre à partir du 24 octobre. Des tableaux venus de Parme, de Milan, d'Édimbourg, un dessin prêté par la reine d'Angleterre. Mais il y a encore beaucoup de mystères autour de cette expo. Eh bien Jacqueline Pétros, vous nous dévoilez certains de ces mystères. Très surprenant, la nouvelle technologie est de la partie.
Ce sera un moment unique. Dans le hall Napoléon, en marge de l'exposition, les visiteurs pourront se projeter dans une réalité virtuelle étonnante. Mona Lisa, en personne, nous invitera chez elle. Louis Franck, l'un des commissaires de l'exposition.
On rentre dans le tableau et on rencontre la Joconde dans sa loggia. On a essayé d'imaginer un bâtiment dans lequel elle pouvait se trouver et ce bâtiment est tiré d'un dessin de Léonard, qui est une extraordinaire villa avec un belvédère qui, dans l'expérience de réalité virtuelle, est située sur une sorte de promontoire au-dessus du grand paysage du tableau de Léonard. Et puis, à la fin, il y a une surprise.
Et la surprise, c'est...
Elle vous montre le bas.
Vincent Delieuvin, l'autre commissaire de l'exposition, nous en dit un tout petit peu plus.
Ça sera l'occasion de comprendre, en réalité, la richesse de son habit, qui est ce grand voile transparent qui est brodé à sa robe et qui recouvre l'ensemble de sa robe. Puis de comprendre la mise en scène du tableau, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, on ne voit pratiquement plus le siège sur lequel elle est assise. Et pourtant, il a une grande importance parce que ça permet de comprendre la façon dont elle est assise et toute l'explication du pivotement de la figure vers nous. Bien souvent, on ne le voit plus, ça, on voit le visage, mais on oublie un petit peu le reste de la composition.
La Joconde ne sera donc plus seulement qu'un visage, mais telle que Léonard l'a peinte, une femme, et 500 ans plus tard, plus vivante que jamais.
Léonard de Vinci au Louvre, c'est à partir du 24 octobre. Voilà pour ses premiers secrets sur cette exposition, La Culture sur France Inter. C'est aussi la nuit de la pop, présentée ce soir par Antoine Decaune et Charline Roux, de 21h à 5h du matin sur France Inter et en direct de Ground Control, 12e arrondissement de Paris. C'est à la radio donc, mais aussi passé. Si vous êtes dans le coin, entrée libre dans la limite des places disponibles. Entre autres friandises, il y a un concert du groupe Métronomie. C'est le château qui a rendu jaloux Louis XIV, qui a servi en partie de modèle à Versailles. Vaux-le-Vicomte, près de Paris, propriété privée, propriété cambriolée la nuit dernière. Habitant ligoté, voleur reparti avec un butin estimé à 2 millions d'euros. Laetitia Uveline.
Les châtelains de 91 ans ont été réveillés en plein milieu de la nuit. Vers 4 heures, ils ont été forcés d'ouvrir leur coffre-fort avant d'être ligotés. Les voleurs sont venus à 6, mais sans armes. D'ailleurs, les propriétaires, choqués mais pas blessés, n'ont pas voulu se faire examiner à l'hôpital. Les malfaiteurs, eux, sont repartis avec un peu d'argent liquide qui était dans le coffre-fort, mais principalement des bijoux estimés à 2 millions d'euros. Une fois les voleurs partis, les nonagénaires se sont détachés relativement facilement et ont directement appelé la police. Le château de Vaux-le-Vicomte, à Mincy, près de Melun, est le modèle du château de Versailles. C'est aujourd'hui la plus importante propriété privée de France, classée au monument historique.
Voilà pour ces précisions de Laetitia Uveline. Au bout de 10 ans, est-on en train de découvrir que la cigarette électronique est dangereuse? Réponse, rien ne permet de l'affirmer à ce stade, mais il faut détailler. Bonjour Daniel Messager.
Bonjour Bruno.
L'Organisation mondiale de la santé, Daniel, a qualifié la vapoteuse d'incontestablement nocive cet été. Aux États-Unis, 7 morts lui sont imputées et quelques dizaines de cas de pneumopathie sur des centaines de milliers d'utilisateurs. L'Inde vient de l'interdire. Et nos confrères du Parisien parlaient ce matin d'une mise sous surveillance en France. Alors, 4 questions, Daniel. D'abord, qu'est-ce qui provoque les pneumopathies aux États-Unis?
Alors, il y a eu environ 400 cas d'hospitalisation aux États-Unis en raison d'affections pulmonaires sévères qui ont commencé à apparaître il y a quelques mois. La grande majorité, c'est-à-dire plus de 90%, avaient en fait inhalé de l'huile de cannabis, ce qui apparaît clairement comme une dérive, un mésusage. Si de l'huile de cannabis est inhalée, elle va dans les poumons, elle provoque comme un effet mayonnaise au niveau des alvéoles pulmonaires, d'où des problèmes respiratoires qui peuvent effectivement être très graves. Il reste un petit pourcentage où l'on n'a pas bien identifié ce qui avait été inhalé, mais ce n'est pas du tout ce qui est consommé en France.
Est-ce qu'il y a une surveillance renforcée en France?
Alors, la Direction Générale de la Santé et Santé Publique France élabore un dispositif de signalement. Il a été lancé dès les premiers cas aux États-Unis. Les sociétés savantes, pneumologues, tabacologues, réanimateurs, médecins d'urgence ont été invités à signaler des cas qui pourraient remonter sur des infections identiques de pneumopathie sévère. À ce jour, il n'y en a aucun. On surveille aussi, mais ça c'est antérieur à la cigarette électronique, le procédé dit de dabbing, c'est-à-dire inhaler une petite quantité de concentré de cannabis ou autre substance en utilisant une pipe à eau, et ça peut créer des problèmes respiratoires.
Autre point, Daniel, l'État de New York interdit la cigarette électronique quand elle est aromatisée. Les produits aromatisés sont-ils dangereux?
Non, ce n'est pas le produit aromatisé en soi qui est dangereux, c'est l'attractivité de l'arôme, estiment les États-Unis. Attractivité que ça peut susciter, en particulier chez les jeunes. Il y en effet des parfums à la fraise, au menthol, à la mangue. Les Américains envisagent donc de retirer tous les parfums en dehors du goût tabac, car ça pourrait provoquer un appel vers le vapotage chez des jeunes qui ne fumaient pas.
Alors qu'à l'origine, la e-cigarette est faite pour arrêter de fumer.
Mais oui, c'est ça. Il y a en France 75 000 morts par an à cause du tabac, de la combustion, du goudron. La e-cigarette est apparue pour sortir du tabac et c'est ce qui a aidé des ex-fumeurs à arrêter de fumer. Environ 700 000 personnes, 700 000 Français ont déjà arrêté depuis le début de la e-cigarette lors de la dernière enquête Santé publique France. Alors pour être complet, on ne sait pas tout d'une éventuelle nocivité du vapotage. La plupart des e-cigarettes contiennent de la nicotine. C'est une substance addictive qui peut développer le développement du cerveau. Et l'OMS, vous l'avez rappelé, considère ces e-cigarettes aujourd'hui comme incontestablement nocives, mais on attend évidemment de nouvelles études.
Daniel Messager, spécialiste santé à France Inter, merci pour toutes ces précisions très précieuses. L'actualité à l'étranger à présent, au Canada, la campagne des législatives vire au cauchemar pour le Premier ministre sortant Justin Trudeau. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour.
Dernier événement en date, Nathanaël. Il doit présenter ses excuses, Justin Trudeau, pour un blackface, une photo vieille de presque 20 ans sur laquelle il est grimé en noir.
Oui, et immédiatement, le Premier ministre canadien a senti le danger. Vous savez, il n'a pas cherché à expliquer qu'il s'agissait d'une autre époque ou à trouver des circonstances atténuantes. D'emblée, il a reconnu les faits et surtout d'emblée, il s'est excusé en reconnaissant la portée raciste de son déguisement.
En 2001, j'enseignais à Vancouver et dans le gala de fin d'année de l'école, sous un thème Mille et une nuits, je me suis déguisé en costume d'Aladin, y compris avec du maquillage. J'aurais dû savoir, même à cet âge-là, que j'aurais pas dû faire ça. Mais je l'ai fait et je m'en excuse profondément.
Voilà, des excuses rapides car le Canada est en campagne électorale. Son principal opposant est d'ailleurs aussitôt monté au créneau pour expliquer qu'il s'agit d'un acte raciste et que Justin Trudeau est inapte pour diriger le pays. Fin de la petite histoire pour l'instant, mais pas fin des ennuis, vous l'avez dit, pour l'actuel Premier ministre canadien le week-end dernier. C'est la traduction française de sa chanson de campagne qui a été épinglée. Alors, on comprend pas bien les paroles, mais en résumé, je vais vous expliquer. Le traducteur, genre Google, a traduit la phrase. On peut gagner facilement, on peut gagner haut la main par la phrase. On lève la main haute pour demain, ce qui ne veut pas vraiment dire grand chose. Alors, bref, les incidents se succèdent. À l'arrivée, la campagne n'est pas bonne, car les intentions de vote sont serrées entre libéraux et conservateurs. Et il n'est pas dit que le charme de Justin Trudeau suffise maintenant à le maintenir au pouvoir.
Merci, Nathanaël Charbonnier. Pour un mécanisme automatique de répartition des migrants en langue engagement d'Emmanuel Macron et du Premier ministre italien Giuseppe Conte hier lors d'une rencontre entre les deux à Rome. Ce sujet de l'immigration prend de l'importance dans le débat français ces derniers jours avant un débat. Le débat annuel sur l'immigration, ce sera le 30 septembre à l'Assemblée nationale, puis le 2 octobre au Sénat. Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
Votre chronique, qu'est-ce qui se passe ailleurs en Europe chaque jeudi dans ce journal de 13h. Aujourd'hui donc autour des demandes d'asile. Quel pays d'Europe, Delphine, accueille le plus de demandeurs d'asile?
Eh bien en 2018, l'Allemagne est et reste le pays qui accueille le plus de demandeurs d'asile et de personnes sous protection. 160 000, deuxième la France, 110 000 demandes l'an passé selon les chiffres d'Eurostat qui sont différents de ceux de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés. Troisième pays d'accueil, la Grèce, puis l'Italie, au centre d'un gros débat sur l'accueil des migrants, on le sait. Mais rapporté à sa population, c'est la petite Suède qui accueille le plus grand nombre de réfugiés, 28 pour 1000 habitants. L'Hexagone arrive au 7e rang européen avec près de 7 demandeurs d'asile pour 1000 habitants.
Quelle nationalité?
Les premières nationalités en Europe, ce sont les Syriens, les Afghans et les Iraniens, alors qu'en France, le trio de tête est formé par les Géorgiens, les Albanais, deux pays qui n'ont d'ailleurs pas besoin de visa pour entrer en Europe, puis les Afghans.
Alors, Emmanuel Macron dit que les flux d'entrée n'ont jamais été aussi bas en Europe et la demande aussi haute. Est-ce que c'est vrai?
Oui, et la France semble à contre-courant d'une partie de l'Europe. Plus de 110 000 personnes demandeurs d'asile en France l'an passé, on a battu un record. Alors qu'en Allemagne, mais aussi au Royaume-Uni, la demande baisse fortement par rapport au pic de la crise en 2015. En Italie, c'est pratiquement deux fois moins. Cela dit, la France n'est pas une exception en Europe. En Espagne, la demande d'asile augmente de 111%. En Grèce, elle a été multipliée par 6.
Et le sujet clé, c'est évidemment la répartition de ces hommes et femmes.
Oui, c'est toute la question. Les pays de première entrée, Grèce, Espagne, Italie, réclament une meilleure répartition. En témoignent les coups d'éclat de l'ancien ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini. Mais la Hongrie et la Pologne s'opposent catégoriquement à tout mécanisme de solidarité automatique. La nouvelle présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, veut réformer la politique de l'asile, elle aussi. Elle en a fait une priorité et elle aura bientôt l'occasion de le montrer. Les discussions reprennent la semaine prochaine à Malte.
Merci Delphine Simon. Et à propos des migrants, précisément les sans-papiers et les étrangers dont la situation administrative est précaire, il y a, vous le savez, l'AME, aide médicale d'État, offerte. Et le débat est récurrent sur le coût de l'AME. Bonjour Yaël Goz.
Bonjour Bruno.
Réduire ou pas le panier de soins offert dans le cadre de l'AME, il y avait semble-t-il débat au sein du gouvernement. Vous nous l'annoncez, c'est tranché, ce panier de soins ne changera pas.
Oui, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, vient de gagner son arbitrage auprès d'Emmanuel Macron. Le panier restera identique. La ministre a bataillé toute la semaine pour faire corriger le tir après les fake news diffusées au sein même de La République En Marche et notamment cette légende selon laquelle il y aurait de la chirurgie esthétique, des prothèses mammaire financée par l'AME. Oui, répond le ministère de la Santé, quand il y a cancer du sein et ablation, ce n'est pas la même histoire. Soulagement du député En Marche Olivier Véran, rapporteur du budget de la Sécu.
L'aide médicale d'État, c'est ce qui permet de soigner des personnes qui ont un état de santé dégradé, qui viennent pour la plupart de loin, de pays en guerre. La non-assistance à personne en danger, ça ne fait pas partie de l'ADN des blouses blanches dans notre pays. Ça permet à ces hôpitaux d'être remboursés pour les soins qu'ils ont donnés. Donc oui, moi je suis très attaché au modèle d'aide médicale d'État. Il aurait été de toute façon prématuré de proposer une réforme de l'aide médicale d'État sans avoir les données suffisantes.
Olivier Véran, lui-même médecin neurologue avant d'être député, un point commun avec Agnès Buzyn, hématologue avant d'être ministre. Elle a fait valoir 3 arguments. 1, le devoir humanitaire. 2, le risque de contamination si on ne soigne pas un malade contagieux. Et 3, mieux vaut soigner au plus vite, sinon ça coûte toujours plus cher à la société. Pas touche au panier de soins donc de l'AME, une clarification alors qu'un malaise commençait à s'installer dans la majorité. Ce qui n'empêche pas de réfléchir aux moyens de mieux lutter contre la fraude et les abus. Cette question-là, elle, sera bien dans le débat du 30 septembre à l'Assemblée sur la politique migratoire.
Merci Yael Goz, Agnès Buzyn, invitée ce soir du Téléphone Sonne avec Nicole Belloubet, la ministre de la Justice. Les deux parlent et répondent à toutes vos questions sur la bioéthique, question de santé, question de droit. C'est à partir de 19h20 ce soir avec Fabienne Sintès. Au CHU de Guadeloupe, une grève qui durait depuis 2 mois et demi a pris fin. Un accord est trouvé entre la direction et les syndicats qui dénonçaient les conditions de travail. Des crédits sont débloqués pour acheter du matériel et des postes sont créés. C'est, espérons-le, un pas vers la fin d'un scandale. Les pensions alimentaires impayées, ces ex-conjoints qui ne versent pas ce qu'ils doivent à leur ancienne femme ou conjointe, la plupart du temps, sujet de précarité supplémentaire, en particulier pour les femmes seules avec enfants. Emmanuel Macron avait annoncé une réforme. Elle a été lancée ce matin. Bonjour Mathilde Dehimy.
Bonjour Bruno.
Précisons que l'application sera effective en juin prochain seulement. Le principe, Mathilde, des versements plus automatiques.
Oui, quand la séparation sera prononcée avec pension alimentaire à verser, les deux parents auront simplement à remplir un dossier, puis la CAF fera le reste. Autorisation de prélèvement du conjoint débiteur. L'argent sera versé sur le compte de celui qui a l'enfant à charge. Ça, c'est un cas simple. Mireille, elle, a vécu autre chose.
C'est dur à vivre et c'est très long et très pénible. Le papa a des ressources à l'étranger et il ne les déclare pas. Du coup, ça veut dire que j'ai peiné pendant toute l'adolescence de mes enfants. J'ai toujours rien récupéré. Donc finalement, j'ai rien.
Le pilotage par la CAF permettra justement d'aller chercher ces parents qui organisent leur insolvabilité, promet le gouvernement, en prélevant les salaires. Et en attendant, en versant une allocation, la secrétaire d'État Christelle Dubost.
115 euros par enfant, c'est le minimum que l'on verse, sans délai dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a une insolvabilité, il y a un papa ou une maman qui n'est pas là, qui ne peut pas payer la pension alimentaire, les 115 euros sont versés par enfant.
Il existe déjà depuis 2017 une agence de recouvrement à la CAF, l'APIRA, qui sera renforcée, 450 emplois créés, mais encore faut-il que les familles connaissent les dispositifs, regrette Olivia de l'association Moi et mes enfants.
Ce qu'on attend, c'est une simplification. Le fait de demander, d'aller chercher un dossier, de chercher l'information, des fois les juges eux-mêmes ne proposent pas les choses, et accompagner avec des termes simples.
Un point sur le calendrier, Bruno, mis en place donc en juin pour les familles, dont le jugement sera prononcé à ce moment-là. Recouvrement pour tous à partir de janvier 2021.
Merci Mathilde Dehimy. Il est souvent présenté comme le quotidien de référence de la presse française. Pour ne pas perdre cette réputation, Le Monde doit présenter toutes les garanties d'indépendance, en particulier vis-à-vis de ses actionnaires. Le débat à ce sujet est de plus en plus virulent au fil des mois. Le point de départ, c'est l'entrée indirecte au capital du magnat tchèque du charbon Daniel Křetínský. Depuis, les salariés regroupés au sein du pôle d'indépendance demandent aux actionnaires de s'engager sur un texte qui garantirait l'indépendance totale de la rédaction. Bonjour Alexandra Kuhn.
Bonjour Bruno.
La confusion est montée d'un cran ce matin. L'actionnaire clé Mathieu Pigas a-t-il, oui ou non, signé cet accord?
Alors, lui dit que oui. Il a largement fait savoir via un communiqué ce matin. Sauf que le texte, en fait, qu'il a signé, Mathieu Pigas, n'est pas celui que lui a soumis le pôle d'indépendance. Une partie a été modifiée, celle qui concerne les 20% que détient dans Le Monde le groupe espagnol Prisa. Mathieu Pigas et Daniel Křetínský sont en passe de racheter ses parts. Il faut savoir que ce rachat a mis en rage Xavier Niel, qui a dit y voir une agression envers Le Monde, envers lui-même. Car si au niveau gouvernance, ce rachat ne changerait rien, Xavier Niel et Mathieu Pigas ne serait plus actionnaire à part égale. Le texte soumis il y a 24 heures par le pôle d'indépendance prévoyait donc d'interdire à Mathieu Pigas le rachat des parts de Prisa. Or, dans le texte publié par Le Banquier de chez Lazare ce matin, on peut lire que dans un souci d'apaisement, il propose à Xavier Niel un rachat conjoint à 50-50, donc ça n'a rien à voir. En tout cas, Xavier Niel, il y a quelques minutes, s'y est dit favorable, si et seulement si les parts de Prisa sont ensuite cédées au pôle d'indépendance. Le fondateur de Free propose également la création d'une fondation pour sanctuariser l'indépendance du monde. La balle est donc maintenant dans le camp de Mathieu Pigas.
Ils ont vu leur dernière heure arriver. Un avion chasseur F-16 de l'armée belge s'est écrasé ce matin près de Lorient. Les deux pilotes sont parvenus à s'éjecter. S'il lui restait des cheveux, il serait peut-être un peu gris ce matin. Zidane, entraîneur du Real, est rentré cette nuit à Madrid avec une grosse défaite dans la musette. 3-0 hier soir pour le PSG au Parc des Princes en Ligue des Champions. Amaya Cazenave, est-ce que la statue de Zidane est écornée ce matin dans la presse espagnole?
En tout cas, à Madrid, on est effondré pendant qu'à Barcelone, en revanche, on s'amuse de la débâcle de l'éternel rival. Prenez par exemple la une de As, le quotidien sportif madrilène, sans doute le plus CFR et qui a dû faire mal à la tête de Zidane sans ses cheveux. Une photo de Karim Benzema désemparé, se prenant la tête entre les mains et ce titre sans âme. As qui ajoute que le PSG a écrasé un Real incapable de tirer une fois au but. Une équipe fantomatique en pleine débandade, marqua l'autre journal de référence à Madrid et trie aussi les siens. Une prestation indigne d'un Madrid de cristal, impossible de jouer l'Europe ainsi. Et en une, cette fois, une photo de Di Maria, ex-madrilienne, auteur d'un doublé. L'Argentin tire la langue devant James Rodriguez et Bale médusé. C'est bien connu, le malheur des ans fait le bonheur des Catalans, à l'image de Sport qui se délecte de la déconvenue du Real. Écrasé, un Madrid très fragile en défense et nul en attaque a commencé sa Ligue des Champions par une défaite retentissante. Et puis comme si cela ne suffisait pas, le Mundo Deportivo met une dernière pique, Madrid KO.
Et à Paris, l'ambiance est tout autre pour Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG. Le match d'hier, c'est le benchmark, autrement dit la référence pour toute l'équipe après ce 3-0 remporté, ce 3-0 signé du PSG. Élodie Calac nous donne les prévisions météo dans un instant, encore assez peu de pluie aujourd'hui, et la sécheresse est toujours plus préoccupante dans une très large partie de la France. Écoutez ce reportage de Pascal Boucherie, France Bleu Loire-Océan, sur les bords de Loire, entre Angers et Nantes. C'est réellement saisissant.
Les bancs de sable occupent les trois quarts de la largeur du fleuve à Montjean-sur-Loire. Au pied du pont, le restaurant de Jean-Claude Grondet.
Nous sommes là depuis 21 ans et c'est vraiment exceptionnel de voir la Loire aussi basse.
Conséquence en aval, à Saint-Florent-le-Vieil, les pêcheurs amateurs comme Gérard se morfondent.
Le désastre, carrément. La Loire, il n'y a plus d'eau dedans, il y a plein de lentilles, il y a plein de saloperies qui descendent. C'est insupportable. Dans notre jeunesse, la Loire était 3 mètres plus haut.
Plus bas, en descendant sur l'autre rive, Anceny et Aurélie, promeneuse qui ne reconnaît plus la Loire.
C'est un peu triste parce que je me dis que c'est un fleuve quand même. Normalement, il devrait y avoir un petit peu d'eau. Et là, on se retrouve avec limite une rivière, en fait, sur quand même un bon nombre de kilomètres.
Ce n'est pas Chantal qui dira le contraire. Elle vit en bordure d'eau à la Pierre Percée, sur la commune de La Chapelle-Basse-Mer.
Des oiseaux, on en voit moins. On entend moins, d'ailleurs. Puis même pour la végétation, y a besoin, hein, de toute façon. Hein. C'est tout jaune, les fleurs et tout, mais c'est moins joli. Ça dure depuis 2-3 mois, la sécheresse. Hein.
Quelques kilomètres plus bas, sur la levée de la Divate, Marc, fataliste.
Mais il est grand temps que ça mouille. Hein. Et puis, c'est de pire en pire chaque année. Par faire quelque chose pour le climat.
Et pour Marc, ça commence dès maintenant. Dans son potager, aucun pesticide.
Alors à Nantes, on se nie ailleurs. Quel temps dans les heures à venir?
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va?
Élodie Calac.
Toujours beaucoup de soleil aujourd'hui. On garde le vent de nord-est sur une grande partie du pays qui rafraîchit un peu l'atmosphère au nord. Et puis ça reste instable sur le sud de l'Aquitaine, de l'Occitanie, avec quelques averses, parfois de l'orage en montagne. Des Alpes du Sud vers le Var et la Corse, là aussi, des averses et des orages. Les températures sont de saison au nord, toujours plus élevées au sud. 19 degrés à Saint-Brieuc, Lille, Metz, 21 à Paris, 23 à Bourges, 24 degrés à Nantes et à Lyon, 28 à Bordeaux, Toulouse, Ajaccio, 29 à Montpellier. Il y aura peu de changements demain, petite hausse des températures, beaucoup de soleil, quelques averses entre les Pyrénées et le Sud-Est. Et puis ça se gâtera nettement ce week-end avec le retour de la pluie et on surveillera particulièrement le Sud-Est.